France Inter, le 18-20.
Il pleut et c'est jour férié. Heureusement pour nous, radioteurs des jours fériés, vous êtes en train de faire un peu de cuisine sans doute. La radio est donc allumée, mais avouez que la tentation du canapé, position faussement assise, mollement allongée, a été forte en ce jour sans travail, le tout devant la télé. Sans vouloir généraliser, si vous avez regardé le flux, donc les émissions de l'après-midi en temps et en heure, c'est sans doute que vous avez plus de 50 ans. Et malgré cet âge avancé, le replay, la télé de rattrapage, comme il faut dire, mais que personne ne dit, le replay donc, vous a permis de zapper à la carte. Selon les derniers chiffres du CNC, ce mode de consommation de la télé a été multiplié par 3 en 5 ans seulement. Si vous avez été chercher une plateforme ou un film ou une série à la demande, vous êtes nombreux, plus 80% en 2 ans. Ce marché, bien sûr, il est tiré par Netflix. Ces chiffres-là, là encore, sont tout neufs. Vos enfants, pour peu qu'ils aient entre 15 et 24 ans, ne savent pas vraiment ce que c'est que le flux. Et plus loin encore, qui regarde encore les séries un épisode après l'autre, à part Game of Thrones en ce moment d'ailleurs, mais ces chaînes-là, ces façons de voir les séries sont-elles elles aussi, au fond, vouées à disparaître pour une autre consommation totalement différente. Le pli, en tout cas, il est pris. Dis-moi comment tu regardes la télé, je te dirai quel âge tu as, d'où tu viens, peut-être aussi quel temps il fait. Allez, soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse, le téléphone sonne.
Allez Eric, bonsoir, soyez le bienvenu Eric.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Eric, allez-y.
Oui, ben voilà, moi j'ai 57 ans. Et pourtant, c'est pas grave. Et pourtant, je suis abonné Netflix et je mange de la série par paquet de 5 tous les soirs. Et je ne regarde plus la télé. Par contre, je la regarde en replay. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que c'est pratique. On n'a pas besoin d'être là comme à un rendez-vous. Et deuxièmement, eh bien, il n'y a pas de pub. Alors quand on regarde un,
ça dépend un des fois. Hein. Erika, ça dépend des fois, en fait.
Oui,
il y a des replays interrompus par de la pub, désormais.
Ah bon ?
Ouais, absolument.
Ah, j'ai pas encore vu ça.
Ah bah écoutez, vous allez nous... qu'est-ce que vous regardez en replay ?
Oh, je regarde un peu de tout. Je regarde des feuilletons de TF1, je regarde des émissions à la noix de C8, pour rigoler, enfin, je... voilà. Et ah, bon... c'est très éclectique.
Quoi. Ça veut dire que vous ne savez plus ce qui passe et à quelle heure, au fond, en fait.
Non, c'est pas ça, je sais à quelle heure, parce que bon, je navigue un petit peu sur mon téléviseur, mais j'ai pas envie d'avoir des rendez-vous avec un appareil. Je fais comme bon me semble.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Eric, qui nous permet de commencer très sereinement notre petite discussion jusqu'à 20h et pour en parler ensemble. Bonsoir Pascal Le Chevalier.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à ZDNet, vous êtes évidemment spécialiste des médias. Bonsoir Olivier Bramsel. Vous êtes économiste, professeur à Nîmes Paris Tech, directeur de la chaire sur l'économie des médias et des marques. L'ai-je bien descendu ?
Oui,
absolument.
Bonsoir.
Au fond, l'un comme l'autre, Pascal Le Chevalier, il est notre nouveau téléspectateur typique, notre ami Eric. Il est sur une plateforme, il a cité celle qui est le plus regardée. Il regarde les séries par paquet de 5, comme il nous l'a dit, et il regarde des choses finalement assez communes en replay. Il regarde les émissions basiques en replay, en fait. On va le mettre sous verre, c'est un appartement témoin, Eric, au fond.
Je pense que c'est un téléspectateur des années 2020, avec la possibilité effectivement de pouvoir s'approvisionner en images de différentes manières, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y avait un espèce de monopole de la distribution, de la diffusion des images par les grands diffuseurs, par les grandes chaînes. Aujourd'hui, ce marché s'est fragmenté grâce à la technologie, grâce aussi à l'évolution des comportements. Le consommateur a changé. Et c'est pas forcément une question d'âge.
Mmh. C'est vrai, c'est pas seulement une question d'âge, parce qu'on a l'impression que les plus jeunes, en revanche, ont intégralement quitté l'écran normal, si je puis dire. Ils ont même quitté l'écran, en fait. Ils ont plus que leur ordi devant les yeux.
Les plus jeunes, oui, aujourd'hui toutes les études le montrent. Mais les plus vieux ne sont pas non plus cantonnés à regarder le journal de 20h et à attendre 21h qu'un programme démarre pour le regarder.
Est-ce que c'est la seule chose qui reste au fond réellement, Olivier Bramsel, c'est ce genre de messe-là, en fait, le journal de 20h, donc les espèces de rendez-vous qui sont très iconiques, et pour le reste... tout a été bouleversé.
Mais ce qui est sûr, c'est que la télévision a fabriqué le temps du téléspectateur. et plus largement que la télévision, le broadcast, ça vaut aussi pour la radio. Les premières émissions de radio, c'était l'horloge parlante. Les premières images de télévision qu'on voyait quand les programmes commençaient, c'était la pendule. Et donc, il y a toujours eu cette idée de la grille, du programme, de la fabrication du temps, de la soirée, de l'auditeur ou du téléspectateur. Et ça, je pense que c'est ce qui change. Néanmoins, il peut y avoir des opérations de synchronisation où tout d'un coup, on se met au diapason de ce que la société reçoit à un moment donné. Et je pense que c'est ça la fonction des gros carrefours que sont les émissions d'actualité, enfin la grand-messe du 20h.
C'est ça, mais il y a une série de grand-messes effectivement qui continuent à persister. Pascal Le Chevalier, il dit pas de pub. C'est marrant qu'il ne se soit pas rendu compte, Eric, au fond, parce qu'il y en a de plus en plus de la pub sur le replay ou pas, ou Olivier Bromsel.
Non, en réalité, c'est très difficile de garder le téléspectateur ou le spectateur longtemps avec une pub. Dès qu'on passe une pub en replay ou sur YouTube, par exemple sur des plateformes, vous dites au téléspectateur qu'il en a encore pour 5 secondes à regarder, que c'est la dernière qu'on lui donne, et donc le spectateur a le temps d'aller faire autre chose avant que ça passe, et ou le cas échéant, on lui propose même de zapper la pub tout de suite, et on l'embête rarement plus de 5 à 10 secondes maintenant.
Alors, ce qui est vrai sur l'ordi, c'est moins vrai sur écran, si ou pas, Pascal Le Chevalier?
En fait, ça dépend. D'ailleurs, le CNC a publié il y a quelques jours le chiffre d'affaires estimé de la publicité autour du replay, qui est pour l'année 2018 aux alentours de 150 millions d'euros, c'est-à-dire rien, puisque le marché télé, c'est 3 milliards. Ouais. En fait, ça dépend où vous allez regarder votre replay. Si vous allez chez votre fournisseur d'accès Internet, il se peut que vous puissiez regarder les programmes sans publicité. Par contre, il m'est arrivé de regarder sur une plateforme d'une grande chaîne de télévision un replay d'un extrait de journal télévisé où j'ai eu 1 minute 30 de publicité pour voir 30 secondes d'extrait. Voilà. Donc, entre les deux, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mi-chemin. C'est tout ou rien.
Si on n'en est que à 150 millions d'euros de pub, comme vous dites, ce qui effectivement est dérisoire par rapport au prix de la pub et à ce que ça représente sur les télés, est-ce que ça veut dire que pour l'instant, en gros, les annonceurs, donc les chaînes, et inversement, n'ont pas misé en fait sur le replay. Est-ce qu'ils ont tort en fait, au fond, l'un ou l'autre, Olivier Bromsel?
Les chaînes en clair. D'abord, il y a une différence fondamentale entre les chaînes en clair qui vendent du temps de cerveau disponible aux annonceurs pour reprendre la formule consacrée, et les chaînes payantes qui collectent le consentement à payer des spectateurs pour des programmes. Et dans le modèle en clair, ce qui est certain, c'est que si on peut pas capter une très large audience et l'emprisonner par l'attention pour lui donner un message, on s'en sort pas. Et le problème du replay, c'est que bien souvent le téléspectateur renonce à regarder en replay si la pub est trop longue. Dans l'exemple que donnait Pascal sur l'info avec la grosse tranche de pub, il y a gros à parier pour que le téléspectateur ou le spectateur renonce au bout du compte à regarder ce qu'il avait demandé parce que la pub l'a gavé et qu'il est passé à autre chose.
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer pourquoi le replay à la télé est en général à plus 7 ou pas beaucoup plus? Qu'est-ce qui empêche les chaînes aujourd'hui? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est technique? J'en ai vraiment aucune idée. De laisser les émissions ad vitam, en fait.
C'est très simple, c'est que les chaînes de télévision sont pas propriétaires des droits, donc elles les achètent, elles sont pas propriétaires des programmes, pour être clair vis-à-vis des personnes qui nous entendent. Donc elles doivent passer avec les ayants droit, les propriétaires, les producteurs des programmes, des contrats. Dans ces contrats, il y a une clause destiné à la diffusion en clair, et puis il y a une clause destinée à la diffusion en catch-up, en replay, et évidemment le producteur facture d'autant plus la chaîne que la fenêtre de replay est longue. Donc si la chaîne veut juste apporter le replay comme un service additionnel pour muscler sa marque éditoriale, si vous voulez, eh bien, elle prendra la durée de replay minimale.
De toute façon, Pascal Le Chevalier, est-ce que la durée d'un replay, au fond, c'est-à-dire que si on ne l'a pas revu ou vu dans les 48 ou 72 heures, j'en sais rien, on n'y retournera pas ou pas? Est-ce qu'on sait ça?
Alors, là, c'est pareil, les derniers chiffres qui ont été publiés montrent que je crois qu'il y a plus de 80% des programmes qui sont disponibles 30 jours.
Ouais.
Ensuite, après, on applique les accords qui sont signés avec les syndicats, donc cette fameuse fenêtre de 7 jours. Également, le cinéma, en dehors des plateformes payantes, Canal et OCS, n'ont pas le droit de rediffuser en replay des films de cinéma parce que les accords interprofessionnels ne le permettent pas. Donc en fait, le replay peut rester très longtemps si vous avez signé des accords qui vous permettent de le faire. D'ailleurs, je crois que TF1 lance une série la semaine prochaine et le premier épisode de cette série va être diffusé en replay, mais en preview cette fois-ci, c'est-à-dire avant la diffusion télé. Et ça, c'est ce que permet de faire la technologie aujourd'hui, c'est-à-dire de moduler un peu toutes les diffusions et de faire de l'anticipation et de l'accompagnement derrière, sachant qu'aujourd'hui, un point très très important pour le replay, c'est que le replay est intégré dans la mesure de l'audience par médiamétrie, et donc les chaînes en ont besoin. Je rappelle que Capitaine Marlowe a eu jusqu'à plus 1 million de téléspectateurs dans les 7 jours suivants sa diffusion à l'antenne.
C'est pour ça effectivement que je posais la question à la fois de la pub, en fait, en me demandant si les annonceurs au fond n'avaient pas tout intérêt, alors j'ai bien compris les restrictions qu'il peut y avoir, à la fois la pub, mais aussi effectivement le temps de replay après tout. Est-ce qu'il y a un temps de vie au fond, y compris des choses qui sont extrêmement populaires comme Capitaine Marlowe? Est-ce qu'on sait qu'à un moment c'est mort en fait, on n'y retournera plus? Ça existe ou pas de ce genre de comptabilité?
Par expérience, le temps de vie est lié à l'aspect contractuel des choses, c'est-à-dire que vous avez un droit de diffusion, vous l'exploitez, et puis il y a un autre point qui est le point de stockage technique, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus stocker. Je rappelle que les chaînes diffusent sur leur propre site, mais également chez des partenaires, qui sont les fournisseurs d'accès Internet, et que stocker les contenus sur des parkings de manière indéfinie n'est pas forcément très utile, parce qu'après vous êtes perdu quand vous recherchez un programme.
Exactement, et vous ne savez plus où aller le chercher. Bonsoir Norbert.
Oui, bonsoir mademoiselle.
Soyez le bienvenu Norbert.
Oui. Alors moi, je me situe dans les dinosaures des téléspectateurs, en ce sens que je me comporte un peu comme les gens qui vont au restaurant, je regarde le menu et je choisis ce qui me plaît. Donc sachant que j'élimine déjà tout ce qui concerne la publicité, aussi bien surtout en radio et en télé, vous savez de quoi je parle, les séries de temps en temps, le replay oui, parce qu'il m'arrive de rentrer tard, donc je regarde plus que fois les fictions en replay. Je ne regarde plus du tout de journal télévisé parce que après les infos de France Inter, j'ai l'impression que ça m'apporte rien du tout. Je ne suis pas du tout attiré par les trucs genre Netflix ou des choses comme ça. Je vais voir de temps en temps pour me tenir au courant, mais sans plus, voilà.
Et parce que vous avez peur quoi, Norbert, est-ce que vous avez crainte d'être un peu accro, au fond, si vous allez voir sur les plateformes ou les endroits comme cela?
Ben, je le fais pour me tenir un peu informé de ce qui se passe dans le monde en général, hein. Mais accro, non, pas vraiment. Il y a des séries que j'aime bien, donc sachant que j'ai éliminé tout ce qui est pub, donc vous voyez, il reste les séries de France 2 et de FR3, parce que je supporte pas un film quel qu'il soit coupé par une publicité. Voilà, accro, je pense pas qu'il y a, maintenant avec les possibilités de replay, il y a aucun programme qui va me dire je suis à l'extérieur et je rentre en courant parce que je vais rater ça, voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Norbert. Et la raison pour laquelle je vous ai posé cette question en plus, c'est parce qu'on a ce témoignage qui nous arrive, de Cédric, pardon, qui dit « J'ai moins de 45 ans, je regarde principalement la TNT hertzienne en flux. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas la télé par Internet ou par satellite. Par ailleurs, j'apprécie la notion de rendez-vous avec une émission. Le travail souvent à la maison, le rendez-vous télé ou radio est un élément d'autocontrôle pour faire aussi une pause. Par ailleurs, c'est aussi un bon moyen de maîtriser sa consommation télévisuelle, sinon on ne décroche plus. » Et c'est vrai, Olivier Bromsel, qu'il y a quelque chose de consommation à outrance, en fait, désormais, y compris dans nos pratiques, qui a complètement bouleversé la manière qu'on avait de regarder la télé. C'est aussi ce que disait notre premier auditeur qui dit « je regarde les séries par paquet de 5 », en gros.
Mais depuis toujours, les récits fabriquent de l'addiction. Les premiers les romans au XIXe siècle étaient publiés en feuilleton dans les journaux et plus une histoire dure, plus le nouveau chapitre, le nouvel épisode, etc. devient intéressant. Donc le métier finalement de toutes les industries de médias, c'est de fabriquer de l'addiction chez le consommateur. Mmh. L'originalité de la radio et de la télévision, c'est plutôt de fabriquer le temps du téléspectateur. L'exemple que vous donnez est très clair. Le Gaïdich travaille chez moi, j'ai besoin d'avoir une pendule, et la télé, la radio font office de pendule. Puis il y a des gens qui ne veulent pas la pendule, et à ce moment-là, ils vont consommer à la demande, et là, bien entendu, celui qui leur propose des récits va essayer de les accrocher pour les rendre de plus en plus addicts aux histoires qu'ils racontent.
Pascal Le Chevalier, c'est quand même assez intéressant de voir que de plus en plus, on fait ce qu'on appelle du binge-watching, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français, c'est terrible, hein, pardon, je vais recevoir des mails, c'est sûr, de la consommation à outrance, on va dire, donc en regardant une série dans la foulée. C'est Netflix qui a inventé ça.
Non.
Ah bon, c'était avant Netflix?
Mais non.
Je crois que c'était House of Cards, le premier,
non,
moi.
Mais non, ça c'est le marketing de Netflix. Le binge, le fait de consommer...
Toute la série en même temps.
Une série. Alors, moi, j'ai connu ça en 97, en achetant les premiers DVD, avec
des
les
DVD.
Premiers lecteurs de DVD qui permettaient d'acheter des saisons entières, et on regardait les séries de cette manière-là. Je rappelle également que sur les grandes chaînes, à cette époque-là, il y avait M6 qui diffusait le samedi soir la trilogie
X-Files
du samedi soir, et vous aviez Buffy contre les vampires et je ne sais quelle autre série, et vous aviez jusqu'à 6 épisodes qui s'enchaînaient de 20h30 à 23h. Donc cette forme de consommation, de proposition existait. Après Netflix...
Mais c'était une autre manière c'était une autre manière, parce qu'on achetait un DVD, on allait le chercher, etc. Là, c'est la télé qu'on a en face de nous qui nous le propose désormais. Le sens de ma question, c'était, est-ce que au fond le mode de rendez-vous dont parlait Olivier Bramsel à l'instant, donc un épisode après l'autre, une semaine après l'autre, est-ce que tout ça n'est pas voué au fond à disparaître? En ce moment, on parle beaucoup de Game of Thrones. Est-ce que c'est pas l'un des derniers dinosaures au fond qu'on regarde un épisode après l'autre? Est-ce que cette forme-là n'a pas presque une fin?
Alors, j'ai une petite parenthèse, Olivier, si tu me permets.
Mais je t'en prie.
Je vous en prie, les garçons, faites comme chez vous.
Aux États-Unis, vous aviez eu, également diffusé par OCS, True Detective, et le rythme de diffusion des séries sur les grands networks américains, c'est un épisode par semaine, et ça n'a jamais changé, et en tous les cas, j'ai pas d'informations comme quoi ça va changer la semaine prochaine.
Ça marche encore, le fait qu'on puisse désormais se faire la série entière, ça change pas ces fameux rendez-vous, Olivier Bramsel?
Je pense qu'il y a...
Pourquoi pas, chacun sa façon.
Il y a des tas de types de publics. D'abord, c'est important, il faut distinguer les récits au présent et les récits au passé. Les récits au présent, c'est typiquement le journal télévisé dont on parlait, dans lequel on vous raconte des histoires qui sont en train de se passer, au point même qu'on a vu les chaînes d'information passer du gilet jaune en continu pendant quasiment 6 mois cette année. C'est une façon de structurer le récit au présent pour attirer du public vers lui. Et puis, il y a les récits au passé... dont on sait très bien quand on les regarde, quand on les lit, quand on les voit, que ça a eu lieu avant, et donc qu'on peut les regarder après à peu près n'importe quand. Quand la cassette VHS est arrivée, la publicité de Sony en 1976 qui vendait le premier magnétoscope, c'était de dire aux consommateurs: vous allez pouvoir regarder Kojak et Columbo, parce que pendant que vous regardez Columbo, vous enregistrerez Kojak et vous le regarderez après. On avait déjà l'idée que les consommateurs aimaient les séries, qui pourraient les regarder en temps choisi le moment venu. Moi, je suis absolument certain que à partir du moment où on fabrique un format de récit. Ça vaut aussi bien pour le football, pour les gilets jaunes, que pour les héros Marvel d'Avengers, par exemple. On a pour objectif de capter l'attention du public et de de fabriquer une espèce d'addiction du public au récit qu'on propose. Disney a annoncé son programme de films pour 10 ans. C'est tous des franchises. Donc, ça va être 10 Marvel à raison de deux par an, enfin
Avatar.
20 Marvel sur 10 ans.
5
Avatars.
Oui, c'est effrayant, c'est même terriblement déprimant en fait.
Et pour les dessins animés de Pixar, ça va être des tournages en live avec des vrais acteurs, des personnages de dessins animés. Tout ça va être mis en accès sur des plateformes. Et évidemment, il y aura une nouveauté chaque année, avec un effet d'annonce et une sortie en temps calculé, mais il y aura pour les addicts à ces ou les demandeurs de ces formats de récits la possibilité de les regarder sur plateforme et de regarder toute la saga.
Pascal Le Chevalier, puisque Olivier Bromsel a parlé de Disney à l'instant, est-ce que la multiplication des plateformes justement qui veulent toutes être en concurrence avec Netflix qui pour l'instant écrase le marché, par exemple la plateforme Disney qu'on attend, la plateforme Apple aussi, est-ce que tout ça va bouleverser le marché ou pas?
Alors, on pense que ça va contribuer de toute façon à élargir l'offre, puisque là aussi on est dans un marché d'offres, donc Disney va arriver avec ses programmes. Il y aura aujourd'hui, les études montrent qu'aux États-Unis, on est sur 70% des foyers qui sont abonnés à au moins deux plateformes.
Ouais.
Donc évidemment, il y aura des téléspectateurs, des internautes qui choisiront et Netflix et Disney, puis d'autres qui procéderont à des arbitrages. Là où on va atteindre un plafond, probablement à un moment donné, c'est que les consommateurs ont un budget et qu'on va pas réinvestir 50 ou 60 euros dans X plateformes.
C'est le sens de la question d'André, tiens, de Lille.
Il y aura des choix à effectuer. Ouais. Mais
Netflix,
ça, c'est le jeu de la concurrence.
OCS, c'est bientôt Walt Disney, mais combien ça va coûter tout ça? Ça va finir par coûter une fortune pour avoir accès aux séries et aux films.
Mais le débat existe déjà depuis un an sur l'arrivée de Media Pro avec le foot.
Ouais.
Hein.
Bien sûr.
Aujourd'hui, le
c'est
foot
le
était complètement décomposé entre 3 ou 4 ayants droit diffuseurs. Voilà, après.
Et ce débat peut-être même arrivera ici en radio quand on parlera de podcast, parce qu'au fond, on n'est pas loin de parler de la même chose. Quand on parle du replay, qu'on parle des podcasts
absolument,
et aussi du
chose.
Podcast natif, on parle effectivement de la même chose. Et l'histoire du coût, l'histoire des prix, l'histoire des plateformes sont aussi des choses qui, évidemment, existent pour nous en radio. Bonsoir Marie-Ange.
Oui, bonsoir Fabienne.
Bienvenue Marie-Ange.
Oui, merci. Ben, moi, j'apporte pas de grand-chose au moulin, simplement pour dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui ne regardent plus la télé comme avant. Avec mon mari, nous avons 77 et 78 ans et nous adorons le replay. Bon, on regarde aussi et Netflix, voilà. Alors surtout le replay, parce que j'adore les documentaires et je peux, quand j'ai un moment, ça me délasse. Et bon, sur Netflix, il y a énormément de documentaires, sur Arte aussi, et sur les chaînes comme la 5, ce que je regrette, c'est que ils ont changé un peu leur système. C'est moins facile d'avoir les documents, les replays qu'on veut, et on a de la pub. Ça, c'est, on l'a pas sur Arte. Voilà.
Merci beaucoup, Marie-Ange, pour votre témoignage. Et voyez, Marie-Ange, qui a 78 ans, qui est en miroir avec Mélanie, qui dit moi, j'ai 30 ans et je déteste regarder les films en replay ou sur Netflix, comme les vieux. Donc, c'est pas vrai. J'aime regarder le flux et pas besoin pour autant d'être fidèle. Voilà ce que nous dit Mélanie. Pascal Le Chevalier, est-ce que le replay, la VOD, sont amis ou ennemis en fait? Ou est-ce que le replay est là aussi pour éviter pour freiner un peu la VOD et inversement?
Alors, ce qu'on sait.
Vidéo à la demande, pardon, tiens, oui. Et j'en profite, visionnage boulimique pour binge-watching, puisqu'on nous l'a dit, j'aime autant voilà, le dire tout de suite avant de recevoir des tweets qui vont me dire, mais comment vous parlez pas français?
On note.
Voilà, c'est important.
Aujourd'hui, le replay, de mon point de vue, est un peu l'arme des chaînes de télévision linéaire contre l'invasion programmée et qui est en train de se confirmer de Netflix qui règne aujourd'hui quasiment en maître. Hein. Les différentes études disent 75% du marché de la SVOD aujourd'hui est capté par Netflix, plus de 5 millions d'abonnés
c'est
en France.
C'est énorme.
C'est énorme. Et donc le replay, en fait, c'est une façon d'offrir aussi aux téléspectateurs la possibilité d'être, comme le disait tout à l'heure Olivier, dans une temporalité différente, avec d'autres types de programmes, qui sont les programmes de la chaîne, mais qui permet de reprendre une certaine liberté et de pouvoir justement adopter un mode de comportement qu'on a classiquement aujourd'hui avec la SVOD. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que le replay qui a énormément augmenté sur les plateformes des fournisseurs d'accès Internet a fait beaucoup de mal à la vidéo à la demande transactionnelle, parce que la vidéo à la demande transactionnelle est payante et que à partir du premier jour du quatrième mois, vous pouvez avoir un film qui était en salle au prix de 5 ou 6 euros. Et là, évidemment, le soir, quand vous devez arbitrer entre un film à 6 euros ou du replay, le public aujourd'hui est plutôt en train d'aller vers le replay qui est gratuit.
Dans la VOD d'ailleurs, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on loue le plus souvent ou pas? Est-ce que vraiment on achète pour se faire une banque de films ou pas?
Les chiffres publiés par le CNC montrent que le téléchargement définitif, l'achat. Numérique se développe, mais ça reste à un prix relativement...
Ça reste cher. C'est presque le prix d'une place de cinéma.
Ce que personne ne dit lorsque vous achetez un programme sur ces plateformes, c'est pour 5 ans, donc c'est pas à vie à la différence d'un DVD. Et oui, donc voilà, il y a quelques contraintes.
C'est-à-dire que ça s'efface automatiquement?
Non, ça s'efface pas, mais au bout de 5 ans, la plateforme qui vous l'a vendu peut perdre les droits et n'assurera plus la survie de la copie que vous avez acheté.
D'accord, voilà. Bah écoutez, intéressant à savoir. Voilà ce mail de Jeanne sur franceinter.fr, Jeanne je crois. Quand on est étudiant et loin de ses parents, la télé n'est pas une priorité quand on loue un studio désormais. Je préfère les films au cinéma, écouter la radio. Et dans ma promo, c'est Netflix, YouTube et aussi le streaming. Là aussi, Olivier Bromsel, Jeanne est appartement témoin de sa génération, au fond, en fait. Elle nous parle de Netflix, mais aussi, surtout, de YouTube, du streaming. Ça veut dire qu'on n'a pas renoncé au téléchargement illégal, ou même si on télécharge moins aujourd'hui, mais on est plus en streaming quand on est de cette génération-là.
Je ne sais pas s'il y a des phénomènes générationnels, finalement, puisque vous voyez les vieux, j'aime pas.
Mais nos auditeurs nous prouvent l'inverse.
Je vais être choqué en disant ça. Les vieux déclarent regarder en temps choisi des programmes ou des œuvres qui les intéressent. Et puis, je pense que dans le cas que vous venez d'évoquer, beaucoup de choses dépendent des conditions matérielles d'existence de la personne. Donc, c'est en fonction de l'accès au logement, de la ressource mensuelle pour vivre et des choix. Si l'étudiante en question préfère aller au cinéma parce que socialement c'est plus agréable et même émotionnellement c'est plus puissant de voir un film en salle que de le voir sur un écran d'ordinateur, parce qu'elle doit vraisemblablement dans son appartement pas avoir un très grand écran plasma 70 pouces.
Bien sûr, et que ça coûte cher à acheter un écran, alors qu'on a tous un ordi désormais.
Et une Sono 5.1 digital derrière, donc je comprends ça très bien. Donc moi je pense pas qu'il y ait... Ce qui est certain, c'est que la cellule familiale des quatre personnes qui se réunissaient pour regarder la télévision dans les années 50, enfin dans les années 60 plutôt en France et 70, qui est le modèle de la mesure d'audience médiamétrie, cette unité sociologique a complètement explosé et fait plus sens aujourd'hui.
Est-ce qu'on a ces chiffres-là, Pascal Le Chevalier? Est-ce qu'on pirate moins aujourd'hui, que l'offre est beaucoup plus importante? Alors certes, elle est payante, donc effectivement, il y a une histoire de pouvoir d'achat, ou pas du tout? Ou tout autant, on pirate tout autant?
Je pense qu'on pirate bien, en particulier en France. Aujourd'hui, il y a des offres. Alors, en fait, les modes de piratage ont complètement changé. Avant, il fallait télécharger, il fallait aller sur des sites un peu spéciaux, etc.
On est désormais en streaming, en fait.
Voilà, aujourd'hui, en streaming, vous avez beaucoup de choses. Alors, en fait, c'est comme les champignons, c'est-à-dire que vous arrivez à en écraser 5, et puis il y en a 5 qui repoussent à côté. Donc, le streaming existe, il y a plein de plateformes qui le font. Les poursuites en France sont ce qu'elles sont. On connaît le dispositif Adopi. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent, je pense, à l'existence du matériau numérique. Aujourd'hui, il y a plein de façons de se procurer les contenus, de les redistribuer, de manière illégale. Ça fait partie du marché. Je crois qu'aujourd'hui le plus gros phénomène sur le piratage, c'est le piratage des matchs de foot.
Le foot, oui.
C'est devenu quelque chose d'extrêmement pratiqué.
Mais précisément parce que désormais il faut avoir 22 abonnements pour pouvoir voir les matchs. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, d'avoir 22 abonnements pour pouvoir voir les Disney et autre chose. On va finir par tous, y compris ceux qui avaient abandonné, revenir au piratage pour avoir l'éventail qu'on cherche, en fait, non ? Ou pas ? Est-ce que c'est pas ça l'un des effets pervers possibles ? Olivier Bromsel?
Non, moi j'ai tendance à penser que ça dépend beaucoup du format du média, si vous voulez. Pour la musique, qui était vraiment le média le plus piraté, ouais, il y a une dizaine d'années, mm-hmm, les producteurs, les labels de musique ont accepté de licencier les plateformes de streaming, mm-hmm, pour des offres qui étaient gratuites au début et qui progressivement sont devenues payantes, au point que Spotify annonce maintenant 100 millions d'abonnés payants pour entre 5 et 10 euros par mois. Et le consentement à payer s'est fabriqué même chez les étudiants, mmh, mmh, pour accéder à des catalogues extrêmement profond, plus de 100 millions de titres, très bien éditorialisés, mmh, avec soit des albums, soit des playlists, des recommandations, de la socialisation de consommation via les réseaux sociaux, etc. Et donc c'est un média qui est en train de se stabiliser autour de ce modèle d'éditorialisation, mmh, et de distribution. Pour ce qui est de ce qu'on voyait jadis à travers la lucarne de la télévision, qui recouvre en réalité des tas de formats de récits, mm-hmm, de la météo au jeu karaoké, au journal télévisé, en passant par le documentaire, mm-hmm, le magazine d'actualité, le film, la pièce captée, mm-hmm, etc. Ça va bouger beaucoup. Et on est en train de voir une spécialisation du sport et dans le sport, ouais, éventuellement du football, mmh, vers certaines plateformes spécialisées. Dans les récits de fiction, eh bien, le format sériel s'est imposé sur des plateformes type Netflix, mmh, ou Amazon Prime, etc.
Bah, il y en a encore beaucoup quand même. Enfin, type Netflix, type Amazon, type Hulu, type,
oui,
Apple,
mais
bientôt.
Une fois que ces modèles vont se stabiliser, les offres seront relativement bon marché, de l'ordre de 10 euros par mois, c'est-à-dire du prix d'une place de cinéma. Et à ce moment-là, je pense que pour des consommateurs qui seront installés dans la vie, c'est-à-dire avec un logement, un emploi,
un salaire, ouais,
une famille, on acceptera de prendre 4-5 abonnements si ça le justifie.
Alors, j'allais vous reposer la question dans le même sens, Pascal Le Chevalier. Est-ce qu'on risque pas de... Soit, effectivement, on prend 4-5 abonnements, ou alors il va se passer quelque chose sur ces plateformes qui ressemble à ce qui s'est passé avec la musique, où il reste Spotify et Deezer, en gros, et qu'on... Et le marché se partage en gros entre ces deux-là, particulièrement Spotify. Est-ce qu'à un moment, il faudra resserrer toutes ces plateformes, en fait, les plateformes vidéo ?
Vaste question, je termine juste, ouais, par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est qu'il y a aussi un phénomène qui se passe aujourd'hui qui permet d'accéder à plusieurs plateformes, c'est la coloc. Mmh. On est colocataire étudiant, mmh, on est colocataire quand on démarre dans la vie, puis, mmh, en fait, ben, on a un compte Netflix en colocation. Mmh. Donc le sharing, le partage de compte,
ah ouais,
fait qu'aujourd'hui, ça permet de faire baisser le prix moyen, mmh, à 15 euros, vous le divisez par 4 et ça fait presque plus rien.
Et les codes, on va pas se mentir, on se les échange, hein, les uns les autres, de toute
façon.
Tout à
fait. Façon,
donc ça,
je pense que c'est un bon argument, mmh, parce qu'à un moment donné, on en a marre aussi de pirater, faut aller chercher. Mmh. Les contenus sont de mauvaise qualité, vous avez des films en russe, vous comprenez rien, l'image pixelise, etc. Mmh. Donc ça, c'est pas bien. Après, alors sur la partie audiovisuelle, c'est différent, ouais, de la musique. C'est que il y a des natifs qui viennent de la Silicon Valley, type Netflix, Hulu, qui était quand même l'émergence des studios, ou Amazon, et on voit très bien que les grands studios sont en train de prendre le train en marche et de construire des offres, et donc ces gens-là vont essayer de défendre jusqu'au bout leurs intérêts, parce que Disney va pas demain matin dire oh ben finalement j'arrête ma plateforme et je la licencie à Netflix. Par contre, il va encore y avoir des mouvements. On a vu cette année Disney qui rachète Fox, AT&T qui a racheté Warner. Donc il va encore y avoir, je pense, de la concentration et de la consolidation sur ce marché-là, sans doute aussi au niveau des plateformes. Alors après, qui rachètera qui ?
Hervé, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Hervé, on vous écoute.
Merci. Alors je voudrais commencer par un coup de gueule sur France Inter par rapport à la publicité. Le 7-9 du matin, ça suffit de la publicité entre Thomas Legrand et Dominique Tseux, Marie-Pierre Planchon qui a 20 secondes de pub avant de nous dire le temps qu'il fait, etc., etc. Vous m'avez compris, vous pouvez pas le dire, mais moi je peux le dire.
Mais vous avez le droit de le dire, allez-y, je vous en prie.
Temps. Monsieur de Morancourt après le temps, pour laisser du temps pour la publicité. J'ai calculé, il y a à peu près 15 minutes de pub dans le 7-9. Faut arrêter de nous prendre.
Alors 15 minutes, c'est beaucoup, parce que je crois qu'on n'a pas le droit d'aller.
Ouais. Ne copiez pas RTL, s'il vous plaît.
15 minutes, on n'a pas le droit. Hein. 15 minutes, juste comme ça, au passage, on n'a pas le droit, Hervé, 15 minutes.
Oui,
mais bon, bon
bah,
sûrement
oui, enfin,
un peu
bon.
Moins, allez, néanmoins.
Alors, je sais qu'il y a une différence entre la pub, IKEA, Air France, et puis les petites annonces.
Bah, profitez-en pour citer les marques, tant que vous y êtes.
Bon, bref, allez, Hervé. Je sais que vous êtes d'accord, votre sourire le dit.
Revenons à nos moutons.
Maintenant, pour revenir au sujet de ce soir, deux choses. Moi, j'ai 65 ans. Hein, j'habite à Paris et j'habite aussi en Auvergne. Donc, je fais 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. D'accord. Et j'ai découvert Internet il y a pas longtemps. La VOD, replay, YouTube, il y a pas longtemps non plus, en pianotant comme ça. Et je me rends compte que c'est un bel outil démocratique. D'une part, et que ça permet de regarder. Par exemple, j'ai entendu parler d'Alain Soral ou de Dieudonné ou de Zemmour que tout le monde critique, et grâce à la VOD, grâce à Internet et à YouTube et la technologie démocratique, on peut se permettre d'aller voir ce que disent vraiment ces gens-là. On est d'accord
vous
avec
vous
eux.
Faire ce que vous voulez,
on
Hervé.
Est d'accord avec eux. On n'est okay. pas d'accord. Ça, c'est le point de vue de chacun. C'est ça la démocratie. Mais au moins.
C'est voilà, bienvenue sur Internet.
Je suis bien embêté que la semaine prochaine, je m'en vais et j'aurai plus accès à tout ça. Alors là, on en revient voilà, à ma question de départ.
S'il vous plaît.
Je suis pas du genre à avancer avec un faux nez, je voulais dire
non,
tout
non,
ça.
Non, je vous en prie, allez-y.
D'accord. Oui, voilà. Donc, le problème par rapport, pour en venir maintenant au sujet de ce soir, par rapport à ça,
c'est
vrai que c'est un outil exceptionnel. On peut lâcher la pendule, surtout à mon âge. La pendule de midi s'est arrêtée. La pendule de l'entrée s'est pas arrêtée sur midi à mon âge, vous comprenez?
Oui, j'ai bien compris que vous aimiez Claude François.
Regardez quand je veux, et c'est vachement intéressant parce que je peux regarder quand je veux, en pleine forme, des émissions comme ça, voilà. Mais la semaine prochaine, je vais me retrouver au fin fond du Massif Central, et là, je n'aurai plus droit à rien. Voilà, c'était surtout ça que je voulais dire aussi, pour que vous parliez un petit peu de ce sujet, de ce qu'on appelle les zones blanches, c'est ça?
Allez, merci beaucoup, Hervé. On a fait beaucoup d'allers-retours pour arriver jusqu'aux zones blanches. Hervé, bravo à vous. Toutes mes félicitations. Et c'est vrai, cela dit, Pascal Le Chevalier ou Olivier Bromsel, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, on va dire, dans cette offre-là, entre les citadins qui ont à peu près accès à tout, parce que les accès à Internet, parce que les box, etc., tout ça est beaucoup plus facile que quand on est comme Hervé au fin fond de l'Auvergne.
Alors, il y a une information intéressante à partager. Déjà, la 4G, en particulier chez les jeunes, pour ceux qui ne sont pas dans les zones blanches, leur a permis d'accéder avec des forfaits très peu chers à des tonnes de programmes pour de la vidéo. Et ce qui est aussi important à souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 6 millions de foyers français partout en France qui sont abonnés à la fibre optique, jusqu'à 1 gigabit, et ce qu'on est en train d'observer, c'est que la consommation vidéo chez ces abonnés qui étaient les oubliés d'Internet, c'est-à-dire qu'ils avaient 2 mégas de débit jusqu'à maintenant, explose. Donc en fait, il y a un vrai rattrapage et c'est ce qui permet cette démocratisation. Donc c'est le plan France Très Haut Débit qui va prendre encore quelques années.
Voilà, tiens, Dominique nous dit « Je suis consommateur ». Je ne suis consommateur de rien de ce que vous avez annoncé. Je ne sais pas ce que sont Netflix ou OCS. Pour moi, la télévision consiste à allumer puis à regarder mon téléviseur. Moi, je trouve ça plutôt intéressant en fait de voir, et c'est ce que vous disiez au début, Olivier Bromsel, ça nous permet de boucler un peu la boucle, que au fond, la fonction pendule de la télé, la fonction, je le regarde à l'instant et puis si je l'ai raté, eh ben, je l'ai raté parce que c'est comme ça que ça marche. Tout ça existe encore, en fait, existe encore vraiment.
Et c'est pas fini.
C'est pas fini, c'est sûr, ce sera certainement pas fini. Tiens, avant de conclure, je voudrais vous confier ce mail. Attendez, j'ai pas retrouvé son prénom, c'est dommage. De cette dame qui nous dit « Je n'ai pas la télé chez moi, j'ai cette chance, j'ai 67 ans. » Effectivement, il y a encore des gens qui n'ont pas la télé chez eux. En revanche, j'écoute les podcasts de France Culture, évidemment. J'espère qu'elle écoute aussi les podcasts de France Inter, tant qu'à faire. Parce qu'il y en a aussi beaucoup, mais enfin, on salue nos amis quand même. Effectivement, ce qui nous permet aussi de rappeler jusqu'à quel point la problématique était la nôtre aujourd'hui est la même que celle des podcasts, et y compris effectivement l'arrivée prochaine de certaines plateformes et autres choses de ce genre-là. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Tiens, j'en profite pour saluer Claude que j'ai oublié tout à l'heure, qui dit j'aime la télévision mais j'ai jamais eu recours au replay, comme quoi effectivement il y en a encore. Merci à tous donc d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci pour vos nombreux appels encore une fois, et comme d'habitude, portez-vous bien.